Couture dans le Mid.
Avec Pierre Couture et Frank Fournier.
Radio X.
Ouais, ben Justin Trudeau et Katy Perry, ça s'améliore pas. Là. Moi, je pensais qu'à un moment donné, il allait lâcher le vidéo complètement disjoncté. Là, mais là, non.
Ça n'a pas l'air.
Non, tout va bien. Et ça coûte cher aux contribuables canadiens parce que Justin est suivi par des agents de la GRC en temps réel, là. Temps présent partout.
Ouais. Notre prochain invité, il a travaillé pour un premier ministre. Je ne sais pas s'il imagine son ancien patron faire le guignol de même.
On va y en parler.
On va y en parler.
Chronique politique avec Rodolphe Osny.
Rodolphe, comment vas-tu?
Bonjour Pierre, bonjour Frank, bonjour Québec.
Qu'est-ce que tu penses de Justin Trudeau et ses pitreries? La GRC doit le suivre partout, hein? C'est ça aussi?
Oui, normalement, c'est négocier ces affaires-là en termes d'un premier ministre. On fait comme on appelle, on regarde, est-ce qu'il y a des risques pour sa sécurité, etc. Puis ensuite, à chaque fois, c'est évalué au cas par cas.
Okay.
Normalement, les premiers ministres reçoivent une certaine forme de sécurité pour quelques années après leur mandat, mais ça dépend surtout, bien sûr, de l'avis de la GRC. Est-ce que c'est normal? Je pense que oui. Je pense que quand on a été premier ministre, on veut bien sûr s'assurer qu'ils n'ont pas de problème dans le futur. Pour Justin Trudeau, le problème, c'est comme c'est un globe-trotteur, c'est sûr que ça coûte cher. C'est ça un tout petit peu le problème parce qu'il aime bien voyager, il va beaucoup à l'international. Donc, bien évidemment, c'est des coûts supplémentaires. Mais d'un autre côté, on ne pourra pas lui dire « Écoute, c'est fini, tu ne voyages plus, tu n'es plus premier ministre, mais tu nous coûtes cher, donc reste à la maison. » Ce serait bien évidemment plus difficile à dire. Et évidemment aussi, on ne veut pas que quelque chose de mal lui arrive.
Non.
Parce qu'il a été premier ministre, alors ça fait un peu partie de la base. Tu sais, les présidents américains sont comme ça protégés à vie, les présidents français, les premiers ministres. En France, il y a eu un problème d'ailleurs, il y a eu des sortes de négociations parce qu'ils avaient remarqué que les premiers ministres recevaient un chauffeur, une voiture, même ceux qui avaient été restés très, très peu en poste. On se souvient qu'en France, par exemple, ils ont changé 3 fois de premier ministre en très, très peu de temps, puis qu'il y en a qui n'ont pas duré longtemps. Donc, disons qu'il y avait eu un petit débat là-dessus aussi en France en disant, attendez, là, si vous ne servez pas longtemps, est-ce que vous avez droit à tous les privilèges d'un premier ministre qui a servi beaucoup, beaucoup plus longtemps? Monsieur Trudeau a quand même servi 9-10 ans. Je pense qu'honnêtement, c'est un peu le coup de notre démocratie.
Mais lui, il voyage beaucoup. Là, pour un gars qui nous faisait la morale sur les GES,
son empreinte carbone n'est pas pire.
Est très bonne, là, hein?
Oui, c'est sûr qu'il voyage beaucoup, qu'il prend beaucoup de vacances, qu'il fait beaucoup d'allers-retours. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Comme tout le monde dit, là, il est en train de vivre sa
meilleure
vie.
Best life.
Moi, j'ai toujours dit... Justin Trudeau, c'était pas premier ministre qui aurait dû être, c'est gouverneur général. Dans sa tête, il pensait que c'était un gouverneur général qui allait dans les écoles, il allait voir les enfants, il allait parler de réconciliation avec les peuples des Premières Nations. Je pense que
il pleurait, il a pleuré à plusieurs reprises. Là.
Ben, c'est pour ça que je te dis, moi je pense qu'il aurait mieux fait d'être gouverneur général que premier ministre, mais qu'est-ce que tu veux, les électeurs en ont décidé autrement.
Bon, hey, t'as mis sur X un petit commentaire que moi j'ai trouvé savoureux là sur Radio-Canada et le wokisme. Peux-tu développer un petit peu?
Ben écoute, c'était parce que j'ai vu cet article d'actualité concernant la candidate ou en tout cas pardon l'élu aux États-Unis à New York, Alessia Orto, bon on l'appelle AOC,
Madame
Cortez. Puis qui disait que c'est la fin un peu du wokisme, puis elle a même dit, regardez, je pense qu'on doit passer un peu au wokisme 2.0, parce que le wokisme 1.0, il n'était pas très, très fort. Puis ça m'a fait penser à Paul Saint-Pierre Plamondon. Dans le passé, Paul Saint-Pierre Plamondon, surtout en 2024, on se souvient qu'il avait fait plusieurs sorties en disant qu'il y avait un ras-le-bol concernant le wokisme, il avait fait la liste, bien évidemment, les pronoms, l'écriture inclusive, etc., etc.
Ça a dérapé solide, là.
Ben, je me souviens de ça, puis je me souviens que, bon, ben moi, à mon époque, j'ai défendu, bien évidemment, Paul Saint-Pierre Plamondon, malgré le fait que je ne suis pas un souverainiste, mais je trouvais que on poussait le bouchon très fort. Je pensais, comme il l'a dit, qu'il l'avait bien dit, on inventait des concepts, etc. Puis ensuite, si on joignait pas la parade, puis si on n'utilisait pas ce vocabulaire-là, puis qu'on n'était pas d'accord, on remettait en question les concepts. Écoute, on se souvient bien évidemment de toutes les problématiques concernant des détenus qui, tout d'un coup, disaient que c'était une femme pour aller en prison de femme, etc. Donc, ça m'a souvenu ça, puis je me suis souvenu que, bon, à mon époque, à la fin, j'en avais un peu, je me disais, OK, là, c'est comme, on est plus tout le temps obligé de débattre de ça ou d'avoir, moi, ce que j'appelais, tu sais, comme le moment éco-anxieux aussi sur l'environnement, la taxe sur le carbone, vous vous souvenez?
Ah oui.
À chaque fois, il fallait qu'on parle de la taxe sur le carbone, puis que tout le monde dise, ah non, c'est bien la taxe sur le carbone, c'est bien la taxe sur le carbone. Moi, à mon époque, je disais, ben non, un, c'est pas bien la taxe sur le carbone. Puis la preuve, vous en avez tellement parlé de la taxe sur le carbone que c'était le truc le plus extraordinaire après le pain tranché, que même Justin Trudeau, qui l'a instauré, il l'a suspendu. Puis Mark Carney, vous avez voté pour lui, il l'a suspendu aussi. Donc, au bout d'un moment, je disais, il y a quand même un tout petit peu de militantisme qu'il y avait concernant le wokisme. Puis bon, moi, je voulais pas faire partie de la game ou sinon, si on allait pour avoir un débat, ben qu'on y aille jusqu'au bout.
Mais tu l'as senti, on t'a tassé carrément.
Je sentais qu'au bout d'un moment, là, tu sais, quand à chaque fois on devait parler d'environnement, tu sais, comme on dit, là, tu sais, pour check the box tout le temps, aujourd'hui, là, faut qu'on parle d'environnement.
La vertu. Et
ça, tu sais, moi j'appelais ça, tu sais, presque le moment éco-anxieux de la journée, là. Ah, attendez, faut qu'on bloque quelque chose sur l'environnement.
Ah, il était tannant, hein, sérieux. Moi, j'écoutais à Radio-Canada avant, puis là, à un moment donné, j'étais plus capable. Là, ça, on dirait que il y a encore de la misère, là, mais effectivement. Écoute, PSPP, référendum, tant que Trump va être là, il n'y aura pas de référendum au Québec. C'est parce qu'on en a parlé ce matin, là, c'est lunaire. Là.
Mais c'est ça, mais hier, quand le post est sorti, moi, je veux savoir, Rodolphe, c'était quoi, à quoi tu t'attendais? Parce que là, il y avait comme deux gangs qui disaient... Ouais, d'après moi, il va maintenir l'engagement puis il cale tout le monde pour dire, regarde, on met fin aux rumeurs, oui, on maintient notre engagement puis on s'en va de l'avant. Puis il y en a d'autres qui disaient, c'est sûr, qu'il convoque la presse pour, en bon français, tirer sa plug. Finalement, personne n'avait trop vu venir cette annonce-là, mi-figue, mi-raisin, qui à venir jusqu'à présent n'a pas l'air de satisfaire personne, là.
Ben écoute, on disait, mais attendez, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon va vraiment... dire, OK, on le fera finalement dans un deuxième mandat, c'était très, très difficile à croire parce que je me disais, c'est toute sa crédibilité, comment il s'est construit comme politicien depuis ses débuts. Il ne l'avait jamais caché, le livre bleu, tout ce que tu veux, la pédagogie, la commission Grenier, sortez les documents. Bon, tout ça pour dire que tu disais, non, c'est pas possible. En tout cas, ce serait comme un gros, gros move en termes de crédibilité de dire, bon, on le déplace à un deuxième mandat. Là, maintenant, mais il avait, moi, j'avais quand même l'impression que ce qu'il a dit aujourd'hui, ce matin, ouais. Il l'avait déjà un peu télégraphié. Et il avait dit, oui, je comprends l'incertitude des gens, je comprends que les gens ils sont anxieux avec ce qui se passe aux États-Unis, je comprends que les gens ne veulent pas toujours parler de souveraineté actuellement. Là, j'ai quand même l'impression qu'il a comme dit, bon, allez, je vais les mettre clair. Tant que M. Trump n'est pas au pouvoir, il n'y en aura pas de référendum. Théoriquement, on reste un tout petit peu. On pensait que Paul Saint-Pierre Plamondon s'alignait pour un référendum, genre dans la deuxième année de mandat. C'était un peu ça, à peu près. Tu regardais un peu le calendrier. Là, tu dis, bon, ben, il a déplacé ça plus en 2029, dans la troisième année du mandat. Au moins, en tout cas, je pense que c'est clair. Et surtout, je pense qu'il y a un petit côté stratégie politique. Là, ça veut dire, il y avait Mme Fréchette qui venait de faire comme ça une grosse annonce. La CAQ qui voulait surfer trois jours sur l'annonce de Churchill Falls.
Peut-être qu'ils se sont dit,
allez, on va changer. Tu sais, en politique, on dit on va changer de chaîne, on va changer de sujet, on va faire une petite éclipse. J'ai quand même l'impression qu'il y avait aussi un tout petit peu de stratégie politique en disant, hey, c'est pas vrai que pendant trois jours, on va dire à quel point Mme Fréchette, c'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Allez, on revient parler de référendum.
Mais c'est aussi un peu un aveu de... On en parlait en ouverture de l'émission. C'est un peu un aveu de faiblesse au sens où... Là, ils savent qu'ils voient les sondages, ils ne sont pas fous. Là. Les péquistes, ils voient les mêmes sondages que nous. Ils voient que la souveraineté est pas mal dans un creux historique en ce moment. Le dernier léger, 28-29, même chose dans les autres. On a de la difficulté à dépasser la barre du 30. Puis là, on dirait qu'ils essaient d'acheter du temps pour faire pousser la fleur, là, tu sais, en se disant, ben là, si on s'en va avec ça à court terme, c'est sûr que ça ne marche pas. Fait que là, il faut qu'on garde la flamme allumée pour amener ça un peu plus loin dans le mandat. Puis d'ici là, trouver des manières... que le fruit mûrisse un peu, là, parce que pour l'instant, ça, comme on dit, le jello pogne pas. Là.
Oui, c'est sûr qu'il y a aussi, je pense, un élément de stratégie pour la campagne électorale. Il ne voulait pas, comme ça, tous les jours se faire attaquer concernant le référendum, que les partis d'opposition, puis on l'avait vu, on avait bien sûr la stratégie du Parti libéral, on la connaît, ça va être la dernière semaine de la campagne, un vote pour le PQ, c'est un vote pour le référendum, puis ils vont même dire, Parti libéral, un vote pour la CAQ, c'est un vote pour le référendum.
Oui, mais ça va être ça pareil, là. Il ne l'a pas sorti du premier mandat. Ouais, là,
je veux dire... Non, je sais, mais c'était un peu pour dire, regardez, moi, ma priorité, c'est bien évidemment de parler plus de politique en termes de quelle politique publique il veut mettre de l'avant que juste, par exemple, être un gouvernement ou en termes de faire un référendum. Moi, je pense que c'est un tout petit peu ça. C'est comme un tout petit peu neutraliser un tout petit peu. Je ne te dis pas que ça va marcher à 100%, mais au moins comme ça, ils ont tous une ligne. Et surtout, Pierre et Frank, tous les candidats maintenant auront aussi une ligne qu'on va leur poser la question. Exact. Elle, référendum.
Dans trois ans, après Trump, après... Ouais, mais garde, là, tu sais que Frank le dit à matin, puis normalement, référendum, tu fais ça en début de mandat, comme Parizeau avait fait, là. Là, t'attends trois ans, t'as le rapport de la vérificatrice générale qui vient dire que t'as 7 milliards à trouver, là, t'as 5 milliards, 2, 3, puis t'as un autre 2 milliards, on sait pas où qu'ils vont le trouver. T'as quand même 7 milliards à couper. Là, tu t'en vas dans l'austérité, là, parce qu'il va y avoir les syndicats sur le dos. Ça sera pas facile, là.
Non, parce qu'il commencerait à avoir l'usure de pouvoir. Ben il y aurait des décisions impopulaires qui vont commencer à prendre. Tu viens de le dire, puis tu mets le doigt sur le bobo. Il va y avoir certainement des choix ou des priorités. Les syndicats ne seront pas contents ou certains syndicats. Les gens commenceraient à dire « Hey, c'est pas exactement ce que tu nous avais promis. S'il y a pas d'amélioration en santé, en éducation. » T'as raison, ça veut dire en termes de « ça va jamais être quelque chose de facile ». Que tu le fasses après un an ou que tu le fasses après trois ans, c'est sûr que normalement, ben, tu commences à avoir un bilan, puis les gens commencent aussi à être mécontents.
Et tu regardes le rapport de la vicatrice générale, la croissance des dépenses devrait être limitée dans les prochaines années, là, parce que la CAQ a dépensé plus que le client demandait. Donc lui, il va hériter aussi d'un mauvais bilan du gouvernement. Il va peut-être vouloir mettre ça sur le dos sous l'ancien gouvernement. Puis là, on parle d'un gouvernement peut-être majoritaire, Parti québécois, mais ça s'enligne vers un minoritaire aussi. Puis il va se faire rentrer de tous les bords. Là. Donc ça sera pas facile pour PSPP. Churchill Falls, on a une entente. Est-ce qu'elle va tenir? Madame Fréchette dit que si elle n'est pas élue, ça ne tient plus, cette histoire-là. Hein?
Oui, ben c'est sûr que ça faisait aussi partie de la stratégie politique. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon est sorti très, très rapidement en disant « Écoutez, on ne l'a pas encore lu, quand on va la lire, on va bien évidemment la juger. » Et surtout, qui prend tellement le crédit? Ça veut dire, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une lutte de spin, comme on dit, en termes de est-ce que c'est Mme Fréchette qui prend le crédit? Est-ce que c'est M. Carney qui prend le crédit sur cette entente qui a réussi à rapprocher les deux provinces puis finalement mettre un 10 milliards? Est-ce que, les propositions, ou en tout cas les propos du premier ministre de Terre-Neuve en disant « Regardez, on a gagné », est-ce que des fois tu peux te dire « Hey, est-ce qu'on en a donné un peu trop? » On verra, mais moi je pense quand même que cette entente était importante parce qu'on en parlait aussi avec Frank il n'y a pas longtemps. Si on n'a pas d'entente concernant Churchill Falls, là, le bloc patrimonial, là, l'électricité qu'on a ça, puis qu'on se dit qu'on est fier parce qu'on a de l'électricité à moins cher, ben, il y aurait eu un problème concernant ce fameux bloc patrimonial. Frank, vas-y, parce qu'on en a parlé hors d'onde, lui et moi. Donc, il fallait aussi avoir une sorte d'entente avec Churchill Falls. Sinon, ça aurait fait mal dans les prochains 20 années.
Oui, mais là, j'en regardais. Puis hier, Éric Girard était très, très... Il y a eu une question hier à Éric Girard sur le fait que le Hydro-Québec va investir des milliards, mais du côté de Terre-Neuve. Et ça ne sera pas nécessairement des milliards investis au Québec. Et ça va stimuler la croissance économique à Terre-Neuve, mais pas pour le Québec nécessairement. Là, on comprend qu'il y a 14 000 mégawatts associés à tout ça. Mais quand même, il y a beaucoup de points d'ombre dans cette entente-là qu'on n'a pas eu encore là, les réponses.
Oui, bien écoute, j'ai entendu la conférence de presse du premier ministre de Terre-Neuve. Il disait que ça va être construit par des Terre-Neuviens et des personnes du Labrador. On va bien sûr donner la priorité aux peuples autochtones, aux Inuits. Donc, tu voyais qu'il y avait quand même aussi beaucoup de points pour dire à Terre-Neuve, regardez, c'est nous qui allons le construire, c'est nous qui allons avoir les emplois et c'est nous qui allons réussir à garder plus d'électricité et on pourra même exporter l'électricité aux États-Unis en utilisant le réseau d'Hydro-Québec. Donc, tu vois que, honnêtement, quand tu y penses, là, il a fait un bon coup, le premier ministre de Terre-Neuve, de ne pas accepter l'entente, de mettre de la pression et de comme ça renégocier avec ce qu'on est en train de voir, des meilleures conditions. Mais pour le Québec se devait aussi de regarder, je sais que c'est un peu galvaudé maintenant, mais c'est vrai qu'on avait besoin d'une forme de sécurité énergétique pour les 20, 30, 40 prochaines années.
Ben oui, clairement. Et là, on voit, peut-être en terminant, Rodolphe, que
oui.
Avec l'élection qui s'en vient, là, il y a comme une course à qui va avoir. Tu parlais de l'agenda politique, là, prendre oui. le contrôle de l'agenda politique tantôt. Là, on sort d'une semaine où, quoi qu'on en pense, c'est Éric Duhaime qui a contrôlé totalement l'agenda politique. Un, on a passé une semaine à parler de ces annonces de coupure de 47 milliards sur 5 ans. Tout le monde commentait là-dessus. Puis ensuite, il y a eu sa fameuse vidéo lorsqu'il y a eu le blocage du pont Laporte. Donc, ça a ramené le sujet du troisième lien. Là, l'annonce de PSPP, c'est un peu pour ça aussi. Là. C'est là, il annonçait une grande conférence de presse. Tout le monde parlait de ça hier soir. Puis on a comme laissé de côté Duhaime un peu. J'ai l'impression que cette élection-là, cette campagne-là, ça va être beaucoup ça. Là. Qui est capable de ramener les projecteurs vers lui? Fait qu'il va falloir s'attendre peut-être à beaucoup d'espèces d'annonces comme ça.
Coup d'éclat, ouais.
Oui, puis surtout que le rapport de la vérificatrice générale, comme tu viens de le dire, Pierre, en termes de hey, il manque 2-3 milliards par-ci, il manque 2-3 milliards
par-là. Ben là, c'est 7 milliards qui va manquer oui. dans 3 ans, là.
Ben c'est ça. Donc, ça force un tout petit peu le débat. OK, vous allez couper où? Vous allez faire quoi comme choix? Puis, bon, Éric Duhaime s'est déjà positionné. Donc, tout le monde qui disait, ah, Mme Préchette, qui disait, ah, ça va être démanteler l'État. Ben d'un autre côté, bon, ben il y a 2-3 milliards qui manquent ici, puis 2-3 milliards. Puis, pour l'instant, il manque 1 % ou 1,2 % entre la croissance des dépenses et ce que la mise à jour économique a donné.
Rodolphe, avant de que tu nous quittes, il y a un deadline, hein, c'est demain, là, le 19, pour Trump avec les tarifs. Et on dit qu'hier, Carney a parlé avec Trump au téléphone. Est-ce qu'on va avoir une entente de dernière minute? On va avoir des tarifs? Et les marchés boursiers vont réagir fortement. Là. Il y a beaucoup de choses. Hein. Comment tu vois les prochaines heures?
Ben, il y a eu aussi des déclarations. J'ai regardé ça du point de vue des médias anglophones. En Ontario, certaines personnes, certaines compagnies automobiles ont dit, attendez, là, s'il y a ces tarifs, etc., surtout sur l'automobile, ben, c'est la fin. Il y en a qui ont dit, c'est la fin de l'automobile au Canada. On va juste terminer la production de chaînes actuelles, puis on n'en fera pas d'autres modèles ou on fera pas les investissements nécessaires. Donc, on voit déjà que pour l'automobile, ils sont en train, bien évidemment, de mettre la pression sur le gouvernement en disant, qu'est-ce qu'il verra pour l'Ontario concernant l'automobile? Et oui, moi, j'ai quand même l'impression que M. Carney est dans une position où est-ce qu'il va... quels vont être ces fameux tarifs? Ensuite, de deux, est-ce qu'il va aider certains secteurs plus que d'autres, certaines provinces plus que d'autres?
Ouais.
Et est-ce que si tu regardes l'opinion publique, je fais juste regarder l'opinion publique n'est pas dans l'esprit de « on fait encore des concessions » ou même l'opinion publique est en même du côté de ben, « si c'est comme ça, on doit prendre des mesures pour faire encore des contre-tarifs. »
Ah, mais on a-tu un moyen là, de contre-tarifer, puis au lieu d'avoir une entente gagnante-gagnante, là, à un moment donné, je veux dire, la gestion de l'œuf, on est-tu enfermé avec ça jusqu'à la vie à la mort, ou à un moment donné, il faut ouvrir le jeu, là?
Ben, écoute, la réalité, c'est que la gestion de l'œuf, il y a une loi. Ça veut dire qu'il y a une loi qui a été...
Ça s'est enfermé dans une loi, en plus.
Mais il y a une loi qui a été votée au mois d'avril. Tous les partis ont voté, pas de concession sur la gestion de l'offre. Puis là, moi, pour la gestion de l'offre, moi, je pense qu'on doit protéger la gestion de l'offre parce que c'est une question pour moi de sécurité alimentaire. Là. Ça veut dire, on l'a
ouais,
vu
mais
dans
il y a une limite,
passé.
Là. On est pour étouffer le pays au complet.
Oui, c'est exactement ce que les États-Unis veulent. Les États-Unis veulent qu'un secteur aille contre un autre secteur okay. en disant, hey, qu'est-ce qui est plus important? L'automobile ou les agriculteurs, etc. L'aluminium ou l'acier, c'est un peu les vêtements ou choses. Donc, tu vois que les Américains, ils sont pas bêtes dans leur stratégie. Ils savaient qu'il y a certains boutons qu'ils devaient appuyer pour voir si mais les ouais. provinces allaient flancher les unes contre les autres. On n'a pas encore parlé du pétrole, du gaz, des minéraux critiques. Le fameux F-35, il se passe quoi avec le F-35? Est-ce que c'est une carte qui est jouée dans les négociations? Honnêtement, je ne sais pas, mais c'est pour ça qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer. Puis surtout, les gars, vous le savez, là, c'est pas parce que, imaginons que demain, on arrive à avoir une certaine forme d'entente que dans 3 mois, dans 4 mois ou dans 5 mois, on ne rejouera pas dans le même film.
Bien, c'est arrivé, dernière entente de libre-échange. Ils ont remis des tarifs sur le bois d'œuvre, je pense, 3 mois après ou 4 mois après.
Oui, mais regarde, au début, c'était la frontière. Ensuite, c'était le fentanyl. Ensuite, c'était, bon, ouais. les tarifs, etc. Et on a même eu la menace de tarifs à cause des feux de forêt. Donc, tu vois où on en est rendu.
Ouais, voilà. Rodolphe, tu es salué. Toujours un plaisir.
Merci. Merci, Pierre. Merci, Frank.
Salut.
Merci,
bye-bye. Voilà. Rodolphe Osny, chroniqueur politique. Coup de sourd dans le mid. Très bon, Rodolphe. Je l'adore.
Il est excellent.
Ça coche.
Au retour, on ouvre les lignes?
On ouvre les lignes. Déficit appréhendé. On parle de 7 milliards de dollars à trouver au cours des 3 prochaines années. Hier, rapport préélectoral de la vérificatrice générale. Et c'était très intéressant, cet exercice-là, parce que souvent, contrairement à Ottawa, on n'a pas de directeur parlementaire du budget à Québec. Donc, on demande à la vérificatrice générale de faire une espèce de rapport État-finances publiques avant que les nananes tombent. Là, parce que les nananes vont tomber. Là, ils vont en avoir. On va être milliardaires. Tout le monde va être milliardaire.
Avez-vous confiance que l'État va pouvoir faire trouver ces marges-là, couper à quelque part? Puis si c'était vous, mettons, vous couperiez quoi?
Ben, c'est ça
j'aimerais entendre.
Ben, tu sais, de façon intelligente, là. Arrachez-nous pas des inepties, là. Hein?
Non, exact.
Je veux pas un ministre des Finances qui va dire « Moi, je couperais tout, là, puis... » Non, parce que j'ai déjà entendu ça, là. Tu sais, à un moment donné, faut être quand même conscient que il y a un budget, il y a des services à donner à la population. Là. On parle quand même d'un budget de 170 milliards. 7 milliards à trouver. Il y a juste du M qui s'est positionné là-dessus. Eux autres, ils l'ont dit. Là. On va couper là, on va couper là. Mais êtes-vous inquiet de l'état des finances publiques? Parce que ça, on est au provincial, mais au fédéral, tu as un déficit, Frank, de 80 milliards, là, 75-80 milliards qui s'en vient, année après année. Là. Ça, il n'y a pas de trouble. On continue.
Il n'y a pas de trouble.
On roule.
On roule.
On revient après la pause.
Couture dans le mid.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Radio X.